Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Il couvre plus de 70% de la surface de la Terre, régule le climat, abrite une biodiversité fascinante, et pourtant, l'océan reste un territoire assez méconnu. Il est en première ligne face au réchauffement climatique, alors on parle de montée du niveau de la mer, d'acidification, de disparition d'espèces. Mais que se passe-t-il exactement dans les profondeurs? Quels sont les mécanismes derrière ces bouleversements et quelles conséquences pour la planète et pour nous? Pour comprendre ce basculement, nous avons la grande chance d'être avec Laurent Bopp, climatologue et océanographe, directeur de recherche au CNRS et membre depuis cette année de l'Académie des sciences. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio pour répondre à toutes nos questions sur les océans face au réchauffement climatique. C'est un sujet qu'on essaie de mettre un petit peu plus en valeur en 2025. C'est l'année des océans. À cette occasion, l'Académie des sciences organise le 3 juin prochain une nuit consacrée au sujet ouverte à tous. La nuit de la médiation scientifique, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, les océans, je le disais dans l'introduction, ils demeurent aujourd'hui un territoire largement mystérieux pour nous les humains. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'angle mort de connaissance sur ce thème-là?
Alors oui, il y a encore une certaine méconnaissance du fond de l'océan en particulier, très difficile d'accès. Il y a une partie du fond de l'océan qu'on n'a pas encore cartée, où on n'a jamais été. Et donc il y a encore une méconnaissance de l'océan, mais on a depuis des décennies de plus en plus de données sur la surface de l'océan grâce aux satellites, de données à l'intérieur de l'océan grâce à des campagnes océanographiques, grâce à des visites, des sous-marins. Donc on découvre beaucoup, beaucoup de choses et on a collecter une quantité de données absolument incroyable. Et donc, on comprend de mieux en mieux l'océan et son fonctionnement.
Il se passe plein de choses. Vous parliez de surface non cartée. Quelle surface on n'a pas encore explorée un peu plus précisément?
Alors, on a une idée du fond de l'océan de façon un peu générale, à basse résolution. Mais quand on veut monter à haute résolution, avoir une carte avec une résolution d'une dizaine, d'une centaine de mètres, là, il faut y aller avec certains moyens. Et c'est compliqué, et donc on a moins de 25% du fond de l'océan qui a été carté très haute résolution.
Il y a aussi un nombre important d'espèces marines qui restent aujourd'hui inconnues, qu'on ne connaît pas, qui restent à découvrir.
Voilà, et dans le fond marin, on a également beaucoup de méconnaissances sur les espèces présentes. On a fait des découvertes ces dernières décennies, la vie absolument incroyable autour des sources hydrothermales sur les grandes dorsales océaniques. Ça, c'est des découvertes qui remontent à quelques décennies, et on n'avait aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler la vie dans ces endroits-là.
Alors, on entend beaucoup parler de la montée des eaux comme conséquence du réchauffement climatique. Je suis pas sûre que tout le monde ait en tête les mécanismes derrière. Spontanément, on va penser comme cause derrière cette montée des eaux à la fonte des glaces et des glaciers, ce qui est vrai, ça participe à la montée des eaux. Mais il n'y a pas que ça, il y a une autre cause majeure responsable de cette montée-là, ce sont les fluctuations de température.
Absolument. Donc la montée des eaux, c'est deux mécanismes, si on simplifie. La fonte de la glace, alors seulement de la glace continentale. Quand la glace qui est déjà posée sur l'océan, la banquise fond, ça ne fait pas monter le niveau des mers. Donc c'est la glace continentale, quand elle fond, des glaciers de montagne ou les grandes calottes polaires, Antarctique et Groenland, quand cette glace fond, c'est un ajout d'eau à l'océan et donc ça fait monter le niveau de la mer. Le deuxième mécanisme, il est, comme vous le dites, lié à l'augmentation de température de l'océan. En fait, une eau plus chaude occupe plus de place.
C'est-à-dire
et donc ça fait monter aussi le niveau des mers.
Elle se dilate.
On parle de dilatation thermique. Exactement. Et donc l'océan se réchauffe en surface, il se réchauffe aussi en profondeur. Et donc dans les zones qui se réchauffent le plus, c'est là aussi où le niveau des mers va monter le plus.
Alors depuis combien de temps on constate une accélération de cette remontée du niveau marin? Il y a une date, un moment un peu précis?
Non, alors on documente une accélération de la montée du niveau des mers. En fait, on a besoin de longues séries temporelles pour documenter cette accélération. On a des données depuis, dans certains endroits, très longtemps, grâce à des outils qu'on appelle des marégraphes, qui étaient positionnés dans des ports et qui permettent de suivre localement la montée du niveau des mers. Et puis depuis près de 40 ans, un peu moins, on a maintenant des données satellitales qui nous permettent, à l'échelle de tout l'océan, de l'océan mondial, de mesurer ce niveau des mers. Et donc, depuis cette époque-là, on suit de façon très précise l'augmentation moyenne du niveau des mers. Et on voit une accélération. Quand j'ai commencé à travailler sur l'océan, on parlait de 2 mm par an. C'était la montée moyenne du niveau des mers. Aujourd'hui, on est à près de 4 mm par an. Donc, on a une accélération de cette augmentation du niveau des mers.
4 mm, ça peut paraître peu. En réalité, c'est énorme par rapport
Oui, ça peut paraître peu.
Au siècle précédent.
Si on s'intéresse à à l'entièreté du siècle précédent. Depuis 1900, c'est à peu près 20 cm de montée du niveau des mers. Ça aussi, ça peut paraître peu par rapport à une vague, une marée. Mais en fait, ces 20 cm d'augmentation du niveau des mers, ils se rajoutent à tous ces phénomènes naturels, des vagues, des tempêtes, des marées. Et ils vont causer des épisodes de submersion côtière qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, de plus en plus forts, avec des impacts également de plus en plus forts pour les populations.
Mais ça, on va en reparler. Vous avez commencé à parler des outils qu'on utilise pour calculer cette montée des eaux. Vous avez parlé du marégraphe, c'est ça ? Comment ça marche et puis quels autres outils on utilise ?
Un marégraphe, c'est très simple. C'est des outils qui vont simplement mesurer dans un port le niveau des mers. Et donc, si on corrige des effets de marée, des effets de vagues, on a ce niveau des mers moyen dans un port. Donc, c'est des outils qui ont été inventés et mis en place il y a très très longtemps, plusieurs siècles, et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Et donc, on a dans certains ports des très longues séries temporelles sur de temps en temps plusieurs siècles. Donc, on a une façon de reconstruire dans certains endroits la montée du niveau des mers depuis très très longtemps. Et c'est l'avènement des satellites qui peuvent mesurer par altimétrie le niveau des mers. Donc on mesure la distance entre le satellite et la surface de la mer. Et le satellite va repasser plein de fois au même endroit. Et donc on peut aussi, en nettoyant des effets des vagues par exemple, mesurer le niveau moyen de la mer.
Et alors j'ai lu que ce rythme de fonte des glaces dans l'histoire était parfois bien plus important. Donc là je pense aux périodes interglaciaires. C'est quand on passe d'une période à une autre, le rythme moyen de fonte des glaces pouvait aller jusqu'à 10 mm par an, ce qui est beaucoup plus fort que nos 3 mm actuels.
Oui, alors,
le mécanisme est très différent.
Oui, on a du mal à reconstruire la vitesse. Ce qu'on sait reconstruire de façon très précise, c'est le niveau des mers moyen entre la période glaciaire, donc il y a 20 000 ans à peu près, on avait des quantités de glace absolument incroyables qui étaient stockées sur les continents dans des calottes polaires qui étaient très développées. Sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe, on avait des très grandes calottes polaires. Et donc on sait qu'il y a 20 000 ans, le niveau des mers, il était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. C'est une énorme différence. On pouvait aller à pied de l'Angleterre à la France. Le détroit de Bering était hors d'eau, par exemple. Et donc ça, on sait le reconstruire de façon assez précise. Et donc on sait qu'entre il y a 20 000 ans et aujourd'hui, le niveau des mers a monté 220 mètres. Parce que ces grandes calottes polaires ont fondu en très grande majorité. Dans certains moments, sans doute que le niveau des mers a pu augmenter très rapidement avec, par exemple, des décharges de grands lacs d'eau douce qui étaient stockés sur les continents, qui auraient été amenés à l'océan. Mais on a du mal à reconstruire de façon très précise, sur quelques années, quelques dizaines d'années, la vitesse à laquelle
Bien
le niveau
sûr.
Des mers monte.
Ouais. Alors j'en viens à aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les zones marines de la planète, est-ce qu'elles sont impactées de la même manière par cette montée des eaux ? Est-ce qu'il y a des zones qui sont quand même plus touchées par cette montée-là ?
Oui, il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres. Et donc, grâce aux satellites, on peut faire des cartes de la vitesse moyenne de montée du niveau des mers par zone, par région, de façon assez locale. Et on parlait de 4 mm par an. Il y a certaines zones où ça monte beaucoup plus vite, presque deux fois plus vite que la moyenne mondiale.
Où
Alors
ça ?
Pourquoi ? Dans le Pacifique Ouest, par exemple, là
D'accord.
où se trouvent beaucoup de petites îles qui sont très menacées par la montée du niveau des mers. Alors pourquoi est-ce que le niveau des mers ne monte pas partout de la même façon ? La première raison, c'est lié à ce dont on parlait, la dilatation thermique. L'océan ne se réchauffe pas partout de la même façon. Et donc cette montée du niveau des mers locale, elle va finalement répondre au stockage de chaleur dans cette zone de l'océan. Et donc il y a des zones qui se réchauffent plus que d'autres, il y a des zones qui se réchauffent en profondeur plus que d'autres, et c'est ça qui va causer finalement cette montée du niveau des mers. Et puis ensuite, il y a d'autres processus plus subtils, les changements de circulation par exemple, qui ne font pas changer le niveau moyen des mers à l'échelle mondiale, ils peuvent faire varier le niveau des mers de façon locale ou régionale. La circulation des masses d'eau, elle redistribue les masses d'eau et ça a un impact sur le niveau des mers à l'échelle locale. Mais de façon générale, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le Pacifique Ouest, en grande partie, dans la zone tropicale, est une zone où le niveau des mers augmente plus vite qu'ailleurs.
Et la France, est-ce qu'elle est particulièrement exposée à cette montée des eaux ou pour le moment ?
Alors elle est exposée parce qu'on a une très longue zone côtière, mais ce n'est pas des zones où le niveau des mers il augmente beaucoup plus vite qu'ailleurs, mais on est exposé parce qu'on a des populations importantes, des installations, des infrastructures en zone côtière. Donc on est, en France, exposé à la montée du niveau des mers. Oui.
Une personne sur 10 aujourd'hui habite à moins de 10 mètres au-dessus de la mer et donc est concernée par cette montée des eaux. Vous avez parlé des populations, par exemple, dans le Pacifique. Ce sont des personnes qui ont déjà perdu leurs habitations. Enfin, les conséquences sont réelles et déjà là.
Absolument. Il y a certaines îles, dans le Pacifique en particulier, on peut penser à Kiribati et puis à d'autres îles où une partie du territoire a déjà été mangée par cette montée du niveau des mers. En France aussi, on a une grande partie des zones côtières qui sont en érosion, en lien avec l'augmentation du niveau des mers, avec des impacts sur nos habitats, sur les populations qui vivent là. Alors souvent, ces impacts, ils s'expriment de façon moyenne, parce que le niveau des mers augmente de façon moyenne, mais ils s'expriment aussi via des événements extrêmes. On parlait d'épisodes de submersion côtière. Quand cette augmentation du niveau des mers se superpose à un événement de tempête, par exemple, qui peut avoir lieu en même temps qu'une très grande marée, c'est les moments où les installations côtières, les populations sont le plus affectées.
Donc là, on vient de parler d'un premier changement dû au réchauffement climatique, la montée des océans. Il n'y a pas que ça. Ce changement climatique, il entraîne également, on parle d'acidification des océans. Alors vous allez nous expliquer le mécanisme. D'abord, il faut avoir en tête que l'océan, avec son immense surface, il capte une grande partie du CO2 atmosphérique. C'est la base pour comprendre.
Oui, c'est la base pour comprendre. Et c'est d'abord plutôt une bonne nouvelle.
Oui.
Le fait que l'océan capte près de 25% de nos émissions de CO2. Chaque année, l'océan absorbe 10 milliards de tonnes de CO2. C'est les chiffres des dernières années. Donc c'est une quantité importante. Et grâce à cette action de l'océan, finalement, le CO2 augmente beaucoup moins vite dans l'atmosphère qu'il n'augmenterait si l'océan n'était pas là pour absorber une part importante de ce CO2. Et donc on peut dire que l'océan ralentit la vitesse à laquelle le changement climatique se met en place grâce à cette absorption de carbone. Alors le revers de la médaille, c'est que cette absorption de CO2 va modifier la chimie de l'eau de mer. Donc cette acidification de l'océan, c'est de ça dont je parle, est liée à cette absorption de CO2. En fait, le CO2, quand il se dissout dans l'eau de mer, il va donner de l'acide carbonique et il va faire baisser le pH, qui est une mesure de l'acidité de l'eau de mer avec des impacts potentiels sur les écosystèmes. C'est donc le revers de la médaille de cette absorption du CO2 par l'océan.
Donc le mécanisme, c'est diminution du pH de l'eau de mer qui entraîne du coup une augmentation de l'acidité, c'est ça ?
Exactement. Le pH de l'eau de mer, c'est la mesure de l'acidité dans l'eau de mer. Donc oui, cette baisse du pH, elle témoigne de cette acidification de l'océan.
Et il n'y a que le CO2 qui provoque cette acidification des océans ou il y a d'autres mécanismes, d'autres phénomènes ?
Non, c'est vraiment le phénomène majoritaire qui explique l'acidification. Il peut y avoir localement d'autres épisodes ou d'autres mécanismes, en zone côtière en particulier, le fait que certains éléments nutritifs soient apportés par les fleuves en zone côtière, ça peut aussi causer localement une acidification. Mais à l'échelle de l'océan mondial, c'est vraiment l'absorption de CO2 qui est responsable de l'acidification.
Et alors pourquoi ça inquiète cette acidification des océans ? Concrètement, quelles conséquences ça porte ?
Oui, alors d'abord un mot sur l'intensité de cette acidification. Ouais. Donc le pH diminue, l'augmentation de l'acidification qu'on peut aussi exprimer en termes de concentration des ions H+, c'est ça l'acidification, c'est plus 30% de cette concentration sur les dernières décennies. Donc c'est une modification de la chimie très importante. Alors pourquoi est-ce que c'est inquiétant ? Cette augmentation de l'acidité de l'eau de mer. En fait, cette augmentation de l'acidité, elle a des conséquences sur les écosystèmes, sur les organismes marins et en particulier sur les organismes qui fabriquent des squelettes ou des coquilles en calcaire.
Les coraux,
mais aussi les moules, les huîtres sur nos côtes et puis des organismes de toute petite taille. Il y a du phytoplancton ou du zooplancton qui, eux aussi, fabriquent des coquilles en calcaire.
Et donc, qui sont très
importants pour la chaîne alimentaire dans l'océan. Je donne quelques noms barbares. Hein. Dans le phytoplancton, il y a plein d'espèces différentes, mais on peut penser à certaines espèces comme les coccolithophoridés, qui ont des petites coquilles en calcaire et qui peuvent être aussi impactées par l'acidification de l'océan. Alors avec l'acidification, tous ces organismes, ils ont plus de mal à calcifier, à produire, à fabriquer ces coquilles en calcaire. C'est un peu contre-intuitif, hein, parce que ces coquilles en calcaire, c'est du carbone. C'est CaCO3, donc il y a du carbone. On met plus de carbone dans l'océan, et pourtant, c'est plus difficile pour ces organismes de fabriquer du calcaire. Peut-être je fais référence à une expérience très simple que tous les collégiens ont sans doute réalisée en classe. Quand vous avez une roche calcaire, qui est souvent produite à partir de la compaction de toutes ces petites coquilles d'organismes microscopiques qu'on trouve dans l'océan, quand on a une roche calcaire et qu'on rajoute une goutte d'acide sur cette roche calcaire, le calcaire se dissout. Alors on n'en est pas encore à ce stade, mais on comprend, grâce à cette expérience, que dans un océan plus acide, acidifié, c'est plus difficile pour ces organismes de fabriquer ces coquilles et ces squelettes calcaires.
Vous avez parlé d'organismes avec donc, ces coquilles-là. Il y a d'autres espèces qui sont aussi... par exemple, les poissons sont touchés par cette acidification.
Oui, alors on a beaucoup de questions encore.
Ouais.
Et une méconnaissance des impacts biologiques de l'acidification. Donc, le plus évident, c'est les organismes calcaires. Les autres organismes, ils sont sans doute aussi affectés par cette modification de la chimie, parce qu'un grand nombre de réactions enzymatiques en lien avec le métabolisme de ces organismes dépendent de la chimie de l'eau de mer. Et donc, beaucoup de recherches en ce moment pour essayer de comprendre comment ces organismes répondent à l'acidification.
J'ai lu, par exemple, sur les poissons, mais vous me direz si c'est vrai, que ça pouvait perturber leur odorat.
Ouais, alors c'est une... C'est une thématique qui a fait beaucoup de débats,
ah oui,
avec des expériences qui avaient été menées par certains chercheurs et qui finalement n'ont pas pu être répliquées par d'autres, et donc ça reste une inconnue.
D'accord.
Oui, il y a des papiers assez anciens, d'une équipe australienne en particulier, qui montraient que les poissons, en particulier les poissons des récifs coralliens, avaient du mal à, entre guillemets, retrouver leur route dans une eau plus acidifiée. C'est remis en cause aujourd'hui.
Donc j'imagine que ça doit être assez difficile d'avoir une idée du pourcentage de perte de la biodiversité. En plus, on ne connaît pas l'entièreté de la biodiversité marine. Donc déjà, c'est une première difficulté. Et comme on ne connaît pas précisément les conséquences de cette acidification sur les espèces, ça n'aide pas pour chiffrer cette perte.
Ouais, très difficile
on peut pas.
De le faire. Je peux donner peut-être un ou deux exemples.
Ouais,
hein,
bien
il y a un type de zooplancton qu'on appelle ptéropode. Donc c'est comme des petits escargots de mer, finalement. Et ils ont une coquille très fine en aragonite. C'est aussi du carbonate de calcium, ça s'apparente au calcaire. Et cette aragonite, elle est très soluble dès qu'on augmente l'acidification. Donc ces tout petits organismes, les ptéropodes, ils sont parmi les espèces les plus menacées par l'acidification. Et ils sont pourtant à la base de chaînes alimentaires importantes dans les océans froids, dans les océans polaires, à la fois dans le sud, l'océan Austral, et puis dans le Pacifique Nord. Et donc on s'inquiète de la déstabilisation de ces chaînes alimentaires si un des premiers maillons de cette chaîne, les ptéropodes, vont avoir du mal ou ont du mal à continuer à se développer.
Ouais, ça peut tout dérégler. Donc indirectement, donc là on a parlé des conséquences dans l'océan, mais indirectement ça a un impact aussi sur nous, les humains.
Oui, on parlait de moules et d'huîtres, par exemple. Et donc les ostréiculteurs, les mytiliculteurs ont à faire face à cette menace qui pèse sur leur production de moules et d'huîtres. Il y a quelques exemples sur la côte ouest des États-Unis où certains ostréiculteurs ont dû fermer ou ont dû déplacer leur zone de production parce que les petites larves d'huîtres avaient du mal à se développer dans des eaux qui devenaient de plus en plus acides. Donc on a déjà certains exemples d'impact sur nos activités en lien avec l'acidification de l'océan.
En France, les personnes, les ostréiculteurs sont pas encore concernés directement, mais ça risque d'arriver dans les prochaines
années. Alors ils sont concernés, en fait, ils utilisent déjà depuis très longtemps des méthodes pour désacidifier l'eau de mer.
D'accord.
Donc par exemple, quand on laisse des coquilles d'huîtres ou de moules mortes dans l'eau, quand ces coquilles vont se dissoudre, ça va contrebalancer en partie l'acidification. Donc ça, c'est des méthodes qui sont utilisées depuis très longtemps, et sans doute qu'il faut réfléchir, renforcer ce type de méthode pour faire face à l'acidification à venir. J'ai beaucoup de collègues à l'Ifremer, par exemple, qui travaillent sur ces questions-là et qui travaillent en lien avec des ostréiculteurs ou des mytiliculteurs pour pouvoir mettre en place peut-être des méthodes qui leur permettraient de lutter contre ça. Ouais.
Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur nos océans?
Oui, on a parlé de l'acidification de l'océan, mais en fait, il y a d'autres modifications dans l'océan qui affectent l'écosystème marin et qui seront sans doute importantes dans les années à venir. Je pense d'abord à l'augmentation de température. La modification de la température des masses d'eau, ça modifie les conditions dans lesquelles les espèces se développent. Donc on documente des migrations d'espèces vers les pôles parce que ces espèces, elles ont besoin, elles ont envie de rester dans des niches thermiques qui correspondent à leur habitude. Et donc, c'est ce que voient les pêcheurs, par exemple, avec des déplacements vers le nord, dans l'hémisphère nord, d'un certain nombre d'espèces qui vont être pêchées bien plus loin.
Comme quoi, par exemple?
Comme par exemple le thon, ou par exemple même beaucoup d'espèces en fait, qu'on va retrouver de plus en plus au nord. On documente ces modifications, ces migrations, c'est plusieurs dizaines de kilomètres par décennie, et sans doute que ça va s'accélérer avec le réchauffement de l'océan. Et puis peut-être une ou deux dernières modifications en lien avec le changement climatique. Une modification importante sur laquelle j'ai beaucoup travaillé est liée au fait qu'avec le réchauffement de l'océan, on a un océan qui est de plus en plus stratifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un océan plus stratifié? En fait, les eaux de surface, elles se réchauffent plus vite que les eaux qui sont en subsurface, qui sont un peu plus profondes. Ça, c'est parce que l'absorption de chaleur par l'océan, elle arrive par la surface, et donc les eaux de surface se réchauffent plus vite. Si les eaux de surface se réchauffent plus vite, elles deviennent moins denses, et elles deviennent moins denses plus rapidement que les eaux qui sont plus profondes. Et donc, on augmente le contraste de densité entre des eaux de surface qui sont de plus en plus légères et les eaux de fond qui sont, elles, toujours aussi lourdes. Et si on augmente le contraste de densité, ces eaux vont avoir de plus en plus de mal à se mélanger, les eaux de surface et les eaux de subsurface. Pourquoi c'est important pour les écosystèmes? C'est important parce que le réservoir d'éléments nutritifs dans l'océan, les nitrates, les phosphates, qui sont indispensables au phytoplancton pour qu'ils se développent, ces éléments nutritifs, ils sont concentrés dans les profondeurs de l'océan. Et donc, moins l'océan est mélangé, moins ces éléments nutritifs remontent en surface, et plus le phytoplancton aura du mal à se développer dans les années ou les décennies à venir. Et donc ça semble être une menace importante sur la production marine dans l'océan pour les prochaines décennies. Cette stratification de l'océan qui empêche les éléments nutritifs de remonter en surface et qui va faire baisser la production du phytoplancton. Et le phytoplancton est à la base de toutes les chaînes alimentaires dans l'océan ouvert.
Donc si je résume rapidement, les océans sont soumis à énormément de menaces. On a parlé durant cette émission d'acidification des océans, de montée du niveau marin. Là, vous venez de parler à l'instant de réchauffement des eaux et de stratification. Est-ce que vous pensez encore à autre chose? Un dernier point.
Un dernier impact dont on parle moins, parallèle à l'acidification et au réchauffement, c'est la déoxygénation de l'océan. Encore un terme barbare, déoxygénation de l'océan. On peut l'expliquer de façon très simple, hein. C'est le fait que l'océan aujourd'hui perd de l'oxygène. D'abord parce qu'il se réchauffe, et une eau plus chaude est moins soluble pour le gaz, pour tous les gaz, et en particulier pour l'oxygène. En fait, on a dans le système Terre un réservoir très oxygéné, c'est l'atmosphère, et puis dans l'océan, il y a moins d'oxygène que dans l'atmosphère. Et donc, plus l'océan se réchauffe, plus il perd de l'oxygène vers l'atmosphère. Et en fait, je parlais de stratification de l'océan, ça aussi, c'est responsable d'une perte d'oxygène par l'océan. En fait, l'oxygène qui arrive par la surface a de plus en plus de mal à pénétrer en profondeur, et donc moins d'oxygène en profondeur. Et donc, on documente depuis des décennies le fait que les masses d'eau en profondeur perdent de l'oxygène. Et on peut imaginer très facilement qu'un grand nombre d'organismes marins, hétérotrophes, ceux qui ont besoin d'oxygène pour respirer, vont être affectés par cette perte d'oxygène. Exactement. Et donc cette perte d'oxygène, elle est à surveiller, et ses impacts sur l'écosystème marin, ça fait aussi partie des menaces importantes pour l'écosystème marin dans le futur.
Et ça, c'est un phénomène relativement nouveau qu'on a découvert, cette perte d'oxygénation.
Ça fait comme une vingtaine d'années qu'on en parle. Okay. Mais en tout cas, dans les médias, dans le débat public, c'est sans doute plus récent. Et donc oui, on continue à travailler sur cette déoxygénation, on essaie de comprendre comment cette déoxygénation, elle pourrait conduire à la genèse de zones mortes dans l'océan. Sans oxygène, une grande partie de la vie ne peut plus se développer dans l'océan. Et on a des exemples dans le passé, hein, très lointains cette fois-ci, bien plus lointains que les périodes glaciaires et interglaciaires dont on parlait.
Comme quoi ?
Au Crétacé, par exemple, il y a eu des moments où une grande proportion de l'océan était complètement anoxique.
Alors, le Crétacé, est-ce que...
Alors, le Crétacé, c'est avant la disparition des dinosaures, donc il y a plus de 65 millions d'années. Et donc, au cours du Crétacé, il y a par exemple à peu près 100 millions d'années, il y a eu ces épisodes anoxiques très étendus, où l'océan profond était complètement dépourvu d'oxygène. Et c'est des traces qu'on retrouve dans le sédiment marin, qu'on a été capable de reconstruire, qu'on essaie de comprendre, et donc on s'inquiète de cette perte d'oxygène.
Bah merci beaucoup, c'est absolument passionnant. Là, vous venez de dresser un panorama assez sombre. Est-ce qu'on pourrait finir par une touche un peu plus positive? Est-ce qu'on peut envisager quand même quelques espoirs possibles pour nos océans?
Oui, donc l'océan est menacé par le changement climatique. Mais je crois qu'il faut aussi voir l'océan comme une solution potentielle pour lutter contre le changement climatique. Donc ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'océan est naturellement un régulateur du climat. Il ralentit le changement climatique en absorbant du CO2 et puis en absorbant une grande partie de la chaleur additionnelle qu'on trouve dans le système Terre. Et puis on peut aussi, nous, penser à de nouvelles solutions en utilisant l'océan. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'océan? On peut utiliser l'océan comme source d'énergie. Les énergies marines renouvelables, par exemple, pourraient nous permettre de sortir plus rapidement des énergies fossiles. On pourrait utiliser l'océan pour stocker du carbone de façon additionnelle. Il y a certains projets déjà en cours. Il faut faire attention, pas jouer aux apprentis sorciers, mais il y a sans doute certains de ces projets qui méritent d'être développés. Et puis ensuite, plein de solutions d'adaptation face au changement climatique en lien avec l'océan. Si on développe, par exemple, certains écosystèmes côtiers en les conservant ou en les restaurant, je pense aux mangroves, je pense aux herbiers, ils nous protègent de ces épisodes de submersion côtière qui sont dommageables pour les populations. Donc réfléchissons aussi à ces solutions qui nous sont proposées par l'océan.
Alors, c'est vraiment un sujet passionnant. Et vous avez écrit, Laurent Bob, plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique. Je pense par exemple à « Les poissons vont-ils mourir de faim et nous avec ?». Alors, on recommande bien sûr vos livres. Est-ce que plus largement, et vous pouvez citer aussi vos livres, il y a des ouvrages, des ressources, des podcasts que l'on peut écouter pour se former à cette problématique-là précise pour les auditeurs qui voudraient creuser le sujet?
Oui, il y a de plus en plus de livres, de podcasts, d'émissions qui traitent de ce sujet-là. Je me permets de mentionner ce livre tout récent vient de publier avec ma collègue Marina Lévy qui s'appelle « L'océan en 30 questions ». Très simple, et on essaie de parcourir finalement quelques-unes des grandes questions en lien avec l'océan. Océan et climat, mais aussi beaucoup d'autres choses. Hein. On parle de la pêche, on parle du tourisme, on parle du transport maritime, on parle de la gouvernance de l'océan. Et donc on essaie de façon très simple, encore une fois.
Le livre est assez petit, oui. Il se lit rapidement.
Voilà, de donner quelques éléments, quelques ordres de grandeur sur l'importance de l'océan et sur les menaces qui pèsent sur l'océan.
Il y a d'autres sources qui vous viennent en tête
Oui, je peux parler, par exemple, du travail de la plateforme Océan Climat, qui est un groupement d'ONG, d'acteurs en lien avec l'océan, et qui fait un travail formidable de plaidoyer d'abord sur l'importance de l'océan face au climat, face aux autres menaces, mais qui fait aussi beaucoup de production, de communication autour des sujets océans. Donc allez regarder le site de la plateforme Océan Climat.
Merci beaucoup Laurent Bopp pour tous ces éclairages. On mettra bien sûr toutes les ressources en ligne sur notre page. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur la page de l'Envie de Savoir. Merci et à très vite.
Les podcasts de l'Institut de France.